Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h47 ce matin, les grands débats. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy sur la hausse des carburants. Quelle est la solution selon vous? C'est la question du jour, la hausse des indemnités kilométriques, la baisse de la fiscalité, le blocage des prix ou rouler en électrique. Pour l'instant, vous êtes plus sur la baisse de fiscalité, le blocage des prix. Jackie nous dit ce n'est pas une hausse en rapport avec le prix du baril, mais une augmentation voulue par le gouvernement. Bien sûr, vous pouvez témoigner. Et puis, notre seconde question du jour, on revient sur ce livre de Victor Castanet, Orpea Fossoyeur. Avez-vous déjà été confronté à des défaillances dans les maisons de retraite? Oui ou non, vous dites oui à 80% avec du pour et du contre. Hein. Vous dites que effectivement il y a pas mal de manque de personnel, mais pour certains voilà c'est plutôt pas mal fait et d'autres c'est plutôt assez compliqué. Ouais. Et au 0826 300 300 on a Pascal.
Oui.
Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal.
Bonjour à toute l'équipe, et puis on est encore au mois de janvier, donc bonne année 2022.
C'est, vrai,
beaucoup,
on a encore allez, quelques jours, quoi, jusqu'au week-end prochain, voilà. Jusqu'à lundi prochain, très précisément. Quoi.
Jusqu'à lundi prochain, exactement.
Bon, oui, bon Pascal, voilà. Vous vouliez témoigner ou réagir hein, sur ce scandale hein, autour des maisons de retraite.
Voilà, alors pour moi c'est un scandale, oui et non, hein, c'est pas de maintenant que ça existe. Je dirais, moi ma mère est hospitalisée en maison de retraite pour maladie d'Alzheimer, elle a bientôt 95 ans, elle est dans le département de l'Indre, où ma sœur est tutelle, et justement dans le département de l'Indre, les prix des maisons de retraite sont vraiment très basses. Ouais. Je pense que c'est surtout basé sur le problème des actionnaires, des maisons de retraite ne devraient pas être dans des fonds, un peu, dans des fonds privés, et le problème se trouve aussi au niveau de la direction. Moi j'ai ma femme qui a été faire une formation dans le Lot-et-Garonne, qui s'est retrouvée dans une maison de retraite où tout se passait très bien, je vous donnerai pas les noms, hein, parce qu'il y a d'autres choses derrière, où tout se passait très bien, une deuxième maison de retraite où là, le personnel en avait ras-le-bol. Pourquoi? Parce que la direction ne prenait pas attention, fallait qu'ils mettent 10 minutes pour pouvoir s'occuper d'une personne âgée, et il n'y a plus d'humanité, quoi. Tout ça au nom de l'argent. Mais il n'y a pas que les maisons de retraite, hein. C'est très bien l'enquête qui a été faite, là. Parce que nous, on vient de dénoncer auprès du département les ADMR.
Les
ADMR, et là, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave.
Expliquez les ADMR.
Alors les ADMR, ce sont les associations de loi 1901 qui ont été montées dans les années 1945 pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles
et d'être
normalement. Ouais. Qui sont des agents à domicile qui s'occupent du ménage et autrement des auxiliaires de vie qui, elles, sont habilitées par un diplôme d'État à s'occuper du personnel. Mais là, c'est beaucoup plus grave parce que c'est un problème de qualification sur le personnel.
Ouais.
Et ils ont le même problème de temps hein, pour le travail.
Ouais.
Sauf qu'elles sont à domicile chez les personnes, ce qui est beaucoup mieux. Hein.
Bah oui, sur le papier, en fait, c'est mieux. Hein. Le problème, c'est que, bien souvent, pour ces auxiliaires de vie, on a beaucoup de difficultés. On a fait plusieurs émissions et on le refera, beaucoup de difficultés à trouver du personnel, quoi, parce que en même temps, c'est pas très très bien payé, on passe beaucoup de temps...
Excusez-moi de vous couper, les conventions collectives ont évolué, non, elles sont bien payées, simplement que c'est la qualification qui correspond pas, on envoie une personne agent à domicile, alors qu'on lui fait faire le métier d'auxiliaire de vie, c'est très grave, parce que c'est un diplôme, et ce genre de choses-là ne doit pas exister, parce qu'en même temps, il y a un problème de... Là, mon épouse va être qualifiée.
Attendez, Pascal,
une négociation. Donc les maisons de retraite, pour moi, je trouve que oui et non, il y a des problèmes, oui et non. Mais c'est sûr que c'est mieux pour une personne âgée de rester chez elle.
Ouais, quand elle peut et quand c'est possible, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Et puis après, sur les maisons de retraite, il y a des endroits où quand même, c'est ce que je disais, il y a des endroits où le service est plutôt bien assuré, parce que c'est pas évident en fait de travailler aussi dans ces maisons de retraite face à maintenant aujourd'hui. Aux personnes âgées, il y en a de plus en plus. Et alors, vous disiez tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des actionnaires et il y a des fonds. C'est aussi parce qu'on n'a pas suffisamment investi, en fait, au niveau étatique, parce que ça coûte très cher. Et résultat, heureusement que le privé est venu quand même pour investir et en créer. Parce que sinon, on n'en aurait pas suffisamment. Hein. On en manque un peu partout. Hein.
On est d'accord, mais de toute façon, c'est le même cas. De toute façon, dans la mesure où il y a des actionnaires, on le voit aussi.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Bien de grandes entreprises. Ouais. Partout, dans la mesure où il y a des actionnaires, ouais. la direction doit faire du chiffre et ne doit pas s'occuper du problème des humains ou du salarié. Alors, assez rigolo, non rigolo, mais ma maman était agent hospitalier dans les années 70 à Thiers, à la maison de retraite de Thiers dans 94. Ouais. Donc, elle ne voulait pas aller dans les maisons de retraite, malheureusement. Nous, on l'a mis quand vraiment elle n'avait plus possibilité de réagir et qu'elle s'en apercevait plus. C'est peut-être méchant à dire, mais la maladie d'Alzheimer, la famille ne peut pas la contrôler.
Oui, non, mais c'est vrai. Ça coupe parfois, Pascal. Restez avec nous, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, sur ce problème général de la dépendance. Ça devait d'ailleurs être un des grands chantiers. À chaque fois, chaque président, là, depuis 15 ans, on dit oui, l'autonomie, la dépendance, c'est un des grands chantiers. Et on a du mal à y faire face. Hein. Qui veut commencer ? Alexis Poulain, Elisabeth Lévy ? Alexis, alors.
Alors, sur la dépendance, c'est sûr, parce que ça fait des années qu'on sait que c'est d'ailleurs des chiffres qui ne vont aller qu'en augmentation hein, du nombre de personnes dépendantes dans les années qui viennent. Et on devait avoir un grand, pas un Grenelle, mais une sorte de Raoult, comme c'est interministériel, ou un plan sur au moins une réunion sur la dépendance qui se transformait aussi en silver economy, etc. Mais on voit bien que c'est un thème, là encore, qui mériterait la planification, qui mériterait aussi la prévention, de prévenir hein, le fait qu'on sait qu'on va manquer de place, on sait qu'on manque de bras, on sait qu'il y a des dysfonctionnements du fait du système de fonctionnement privé, une partie du parc de lits. Et on voit bien que les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas, tout simplement, parce qu'il y a la dérégulation, parce qu'on se dit finalement, tant que ça passe, ça passe. Et il faut un livre d'enquête pour que les pouvoirs publics, le ministère des Solidarités, se réveillent un peu et disent « Ah, mais peut-être qu'on aurait dû le faire, ce truc, il y a quelques années. » Ça montre quand même combien, finalement, les responsables politiques ne gouvernent plus, en fait, ne prévoient plus rien. Tout est en fonction d'une réaction par rapport à une actualité. Tout est extrêmement de court terme. Or, si on veut planifier la dépendance, il faut sortir de systèmes, finalement, où quelques grands groupes, qui sont des groupes financiers, hein, Orpea, Korian, etc., capte finalement des vies de labeur parce qu'on parle là de l'héritage en ce moment en disant il faudrait enlever la taxe sur l'héritage, mais attention, ces maisons de retraite, ces EHPAD tels qu'ils sont décrits dans ce livre, ce sont des vautours qui captent finalement des vies
c'est
des
très cher.
Mises de côté, c'est très cher et derrière l'héritage est dilapidé dans ces systèmes de maltraitance de l'extrême précarité, donc il faut arrêter avec ça, il faudrait trouver une solution, un encadrement, des règles et puis surtout prévoir que déjà les lits qui vont manquer, on le sait, soient déjà dans les tuyaux.
Elisabeth Lévy. Elisabeth.
Des vautours, cher Alexis, comme vous y allez, peut-être n'y a-t-il pas que des vautours dans ce secteur que je ne connais pas, je vous le dis.
Oui.
Peut-être ne sont-elles pas toutes comme celles que décrit ce livre, mais le problème que vous décrivez du court-termisme, en fait, c'est un problème démocratique, c'est-à-dire que on pourrait dire la même chose pour le nucléaire, si vous voulez, effectivement, le cap de la réélection ne permet pas d'anticiper des programmes qui seraient nécessaires pour l'intérêt général. Mais simplement, je voudrais ajouter une chose. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet.
Non, mais comme tout le monde, vous êtes concerné, en fait, par ça.
Mais comme tout le monde, mais j'ai pas dit que j'étais pas concerné. J'ai dit que je n'étais pas spécialiste, j'avoue.
Oui.
Mais il me semble aussi, alors vous avez raison de pointer les responsabilités de l'État. Et moi, je me rappelle avoir entendu Jérôme Gage très souvent, parce que c'était un peu sa spécialité, parler de cette question de la dépendance, le quatrième chantier, quatrième, mais il me semble aussi qu'il faudrait interroger la société dans son ensemble. Vous le savez très bien, quand vous avez des amis qui viennent de pays moins postmodernes que les nôtres, ils sont toujours un peu effarés par la façon dont nous traitons les vieux. C'est-à-dire, nous les écartons, il y a plein de bonnes paroles, mais en réalité, regardez une pub, vieux, ça veut dire, vieux, c'est synonyme de mal. Y compris, d'ailleurs, même dans le discours public, on dit, ah là là, ça c'est vieux, si vous voulez, c'est toujours... Je veux dire, effectivement, la vie que nous menons, les vies dans la famille nucléaire, fait qu'on ne prend plus du tout en charge ces personnes et qu'elles sont en quelque sorte,
on les considère uniquement comme... Oui, et puis l'allongement du durée de la vie.
Vous avez raison,
et l'allongement, bien sûr. Oui,
mais Alexis a eu raison de prononcer le terme de prévention et de rappeler, je crois que c'était notre auditeur
Pascal,
qui le disait. Pascal, vous avez parfaitement raison. Évidemment, l'objectif devrait être le plus possible que les gens puissent continuer à rester chez eux. Et d'ailleurs, il faut bien le dire, on voit aussi autour de nous beaucoup de gens qui ont 80, 85, parfois 90 et qui sont en pleine forme.
Enfin, bien sûr, non, bah, bien sûr, de plus en plus. Donc, allez, on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver dans un instant. On viendra aussi sur la flambée des prix du carburant et les solutions qu'il faut essayer d'apporter. Éric Revel, Revel en campagne, sera avec nous. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain également. Et puis sur ce problème, hein, quand même, de la dépendance et des maisons de retraite. Là aussi, nous en reparlerons tout à l'heure vers 9h15, parce que c'est un sujet extrêmement préoccupant et qui touche chacun.
La population vieillit. Hein,
oui, bien sûr. Donc, comme Pascal, vous voulez témoigner, faire part de votre expérience, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, on vous attend.
On revient dans un instant, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h04, dans quelques instants, Revel en campagne. Et puis, vos appels 0826 300 300 pour cette question du jour. Avez-vous déjà été confronté à des défaillances dans des maisons de retraite? Pour l'instant, vous nous dites oui à 80%. On vous attend au standard, bien entendu, pour votre témoignage.
Oui, témoignage évidemment sur les maisons de retraite. Témoignage aussi sur les prix du carburant. Ce sera Revel en campagne dans un instant. Mais avant cela, petit hommage à Arthur Delaborde, que vous entendez régulièrement tous les matins. Il est là, très tôt, etc. Aux aurores, bien sûr.
Et c'est pas toujours
fidèle,
facile.
Mais il va s'en aller, Arthur Delaborde. Vous allez nous dire ça dans un instant. Mais juste avant qu'il s'en aille, quand même, rien que pour lui, un petit best-of. Tiens,
bah oui,
un petit best-of.
Du meilleur.
Du meilleur. Écoutez. Je suis seul au
monde. Nous serons aussi tout à l'heure avec le petit déjeuner politique, évidemment. Nous recevons ce matin. recevons ce matin. Écoutez, je n'ai plus en tête. Je crois que Cécile, bien évidemment, va me le dire. Help, I need somebody. Cette révélation qui tombe très mal pour Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer qui pourrait Jean-Michel Blanquer
Jean-Michel Blanquer, oui.
Alors qu'une nouvelle journée de grève aura lieu après-demain.
Jeudi 20. Et on fait un point sur l'actu avec vous, Arthur Delaborde. Bonjour. Arthur, vous êtes avec nous? C'est pas possible. Pas d'Arthur Delaborde. On va revenir dans quelques instants.
Il a oublié de se lever, en fait, Arthur. Il est parti faire une petite sieste et donc il va revenir dans une seconde pour vous présenter, en fait, le flash.
Alors, Patrick, on n'attend pas...
Arthur Delaborde.
Voilà, bravo, bravo, Arthur
Delaborde. Voilà, Arthur Delaborde. Et on écoute, ça c'est l'hymne de Saint-Quentin-la-Poterie.
Exactement. Ouais. Mon petit village du Gard. Ouais. C'est chanté chaque année pendant la fête votive au mois d'août.
Et puis il nous l'a fait découvrir aussi. Hein.
Exactement. Ouais. J'ai transmis
cet
amour de la fête votive de Saint-Quentin-la-Poterie.
Bon, on n'a pas été sympa parce qu'on a mis les plus mauvais moments dans ce bêtisier. Mais c'était
drôle. C'est difficile à trouver sur autant d'années.
Ça va vous manquer toutes ces magnifiques interventions.
Primordial pour l'info. Merci beaucoup.
Avec toute l'équipe du matin autour de Maxime Troulot, de Juliette, de John, évidemment, de Félix Mathieu qui est là.
Ému, tiens.
Bah oui, voilà, Cécile, Benjamin Glaise et bien d'autres, évidemment, de l'équipe qui vont vous regretter, mon cher Arthur
aussi,
Delaborde.
Bah oui, ouais. Tous vous remercier.
Oui, bien sûr.
Voilà, j'ai passé 2 ans et demi formidables avec vous. Ouais. Et puis il est temps pour moi d'aller vers une nouvelle aventure, mais ça se fait avec beaucoup d'émotion.
Bah bien sûr, puisque les auditeurs étaient habitués, effectivement, au son de votre voix, même quand il y avait des absences en studio. Et puis, vous aviez remplacé aussi avec talent André Bercoff à plusieurs reprises. Voilà, bon vent à vous.
Ce qui va nous manquer aussi, c'est le bruit d'Arthur Delaborde quand il court d'un studio à un
autre. Dans les couloirs.
Et qu'il est, c'est-à-dire que c'est pas très léger, le pas est un peu lourd.
C'est la puissance avant d'aller à l'antenne.
C'est ça, merci beaucoup Arthur en tout cas.
Bon vent à vous Arthur.
Merci. Voilà, c'était le dernier journal d'Arthur Delaborde sur Sud Radio. Restez avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio, bien sûr. On continue jusqu'à 10h avec nos invités au 0826 300 300 et surtout Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. Et tout de suite, c'est Éric Revel.
Sud Radio présidentielle 2022.
Eric, bonjour.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Oui, Eric Revel, alors nous revenons avec vous ce matin dans Revel en campagne sur le prix des carburants qui flambent comme jamais. Quelles en sont les raisons essentielles ?
Bah écoutez, il y a deux raisons. La première, elle est conjoncturelle. La deuxième, elle est structurelle. Alors, la raison conjoncturelle, elle est très simple. Il y a une reprise économique mondiale. Le prix des matières premières flambe. Le prix du pétrole flambe. Et donc, le prix de l'essence et du gazole flambe. Et puis, il y a une deuxième raison qui est plus structurelle et malheureusement plus inquiétante parce qu'elle est très française. C'est le niveau hallucinant de fiscalité. N'oubliez jamais que 2/3 du prix d'un litre d'essence, 2/3, hein, c'est de la fiscalité. C'est de la TVA pour 16% et pour 35%, c'est la fameuse TICPE, la taxe de consommation sur les produits énergétiques qui rapporte 19 milliards d'euros à l'État. Cette fiscalité tellement forte sur les carburants, Patrick, c'est le 4e niveau de recettes pour l'État après la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc évidemment, on paye surtout de la fiscalité en France.
Alors il y a eu un geste de fait par le gouvernement jusqu'au MEDEF aussi pour aider les salariés avec le chèque, après le chèque inflation, c'est le geste sur les frais kilométriques.
Hein. Oui, alors bon, pour éviter, évidemment, il faut faire de la politique aussi, un nouveau mouvement des Gilets jaunes à quelques semaines hein, des élections présidentielles. Le gouvernement prend des mesures que moi je qualifie de poche. Hausse du barème des frais kilométriques de 10%, qui va concerner 2,5 millions de contribuables et coûter au passage 400 millions d'euros aux caisses de l'État. Et puis, il y a le MEDEF aussi, hein, vous l'avez noté, le MEDEF, il va de son petit chèque aussi, 300 euros annuels pour les salariés qui utilisent leur voiture pour aller travailler.
Oui. Pourquoi ne pas proposer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout simplement de baisser les taxes sur les carburants, puisque c'est 2/3 du prix d'un litre d'essence ?
Bah, je suis avec intérêt la question que vous avez posée sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent faut baisser les taxes. Oui, oui, faut baisser les taxes, mais pour une raison simple, on peut pas le faire parce que les caisses sont vides. Quand vous baissez une recette fiscale sans faire de réforme, bah, vous creusez encore le niveau du déficit. Ai-je besoin de vous rappeler le niveau de la dette française ? J'en parlais hier de 2900 milliards d'euros. Les caisses sont vides. Ouais. Si le gouvernement avait décidé de baisser la fiscalité sur les carburants, tiens, d'un seul petit centime, Patrick, hein, ce qui aurait été indolore et invisible pour quelqu'un qui fait son plein, de baisser d'un centime le prix d'un litre d'essence, eh bien, ça aurait coûté à l'État 500 millions d'euros. Comme les caisses sont vides, ben, l'État vit à crédit depuis bien longtemps et Emmanuel Macron alourdit la facture.
Oui. Alors que proposent en deux mots les candidats à la présidentielle sur la fiscalité des carburants ?
Alors Anne Hidalgo et Marine Le Pen proposent une TVA réduite à 5,5 sur le prix des carburants. Passer la TVA donc de 16 à 5,5, ça coûterait 60 milliards d'euros. Mais Anne et Marine, je vous l'ai dit, les caisses sont vides, donc c'est pas possible. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse proposent des droits de douane sur des critères écologiques, avec une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Bon, créer des droits de douane, une taxe carbone aux frontières, ben pourquoi pas ? Parce que alors pour le coup, ça crée une recette budgétaire supplémentaire, et là qui n'est pas payée par les contribuables français. Mais Jean-Luc et Valérie, chers amis, vous le savez bien, il faut prendre une décision de ce type à 27. Il y a longtemps que notre souveraineté est passée. Donc, les caisses sont vides, Patrick, le prix des carburants flambe, la question du pouvoir d'achat est cruciale pour nombre de Français qui n'arrivent pas à faire les fins de mois, mais le gouvernement et son futur candidat continuent de nous parler de la crise sanitaire. Vous connaissez le proverbe, évidemment, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, nous prendrait-on pour des imbéciles ?
Merci à vous, Éric Revel. Oui, et ça fait réagir, ouais, bien sûr. Nous allons en parler avec Elisabeth Lévy, vous, Éric Revel, Alexis Poulain, et au 0826-300-300.
Et nous allons directement en Dordogne avec Béranger, bonjour.
Bonjour les auditeurs, bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Oui. Bienvenue. Béranger, qu'en pensez-vous sur cette flambée des prix des carburants et ce qu'il faudrait essayer de faire ?
Éric Revel l'a dit, hein, évidemment, on le ressent fortement. Alors moi, j'habite vraiment à la campagne, la voiture, elle est indispensable pour les enfants à l'école, pour les activités, pour le travail. Enfin, moi, je ne monte pas dans ma voiture pour le plaisir de mettre le contact et de rouler. Hein.
Vous faites beaucoup de kilomètres par jour ?
Oui, je fais beaucoup de kilomètres par semaine, par mois. Voilà, moi, je sais que par semaine, je fais au moins 200 kilomètres. Donc, c'est quand même conséquent. Et les budgets, là, je crains de plus en plus le moment où je vais à la pompe, si vous voulez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un plein en entier. Parce que psychologiquement, on se dit, bah, on va y aller un peu plus, mais ça fait moins mal quand on y va. Et pour rebondir sur ce que disait Éric Revel avant, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Les caisses sont vides, mais je crois que c'est François Fillon qui disait déjà et qu'il était à la tête d'un État dont les caisses étaient vides. Donc, et ça n'empêche pas les gouvernants successifs, d'ailleurs, de créer de la dette publique à plus de 2500 milliards d'euros depuis des décennies. Ça ne les empêche pas de dormir, parce que ça, c'est pas... La dette, c'est nous qui la paierons, nos enfants. Donc, c'est un vrai scandale. Mmh. Et pendant ce temps, le gouvernement Castex, eh ben, lui, se prend pour... alors, excusez-moi, les auditeurs doivent rester sur Sud Radio, mais il se prend pour une radio concurrente qui offre des chèques essence, qui offre des pleins. Castex se prend pour RMC. À un moment, il faut être sérieux, quoi. Ouais. Ce sont des dirigeants politiques qui ont un budget à gérer, qui le gèrent très mal depuis longtemps. C'est pas le premier gouvernement et ça sera pas le dernier. Et par conséquent, la taxe flottante, elle est indispensable. Mais comme l'a rappelé également Éric Revel, ça crée des trous dans les recettes de l'État. Mais à un moment, c'est qu'il y a un problème de gestion du budget. Ouais. Donc, on devrait avoir un droit de regard, nous, au moment où le budget est voté, en tant que citoyen, je suis désolé, payer de la TVA à hauteur de 20% et qui rapporte autant d'argent à l'État pour que l'argent soit aussi mal géré, c'est absolument scandaleux. En 2018, les Gilets jaunes sont sortis dans la rue, enfin, des citoyens français sont sortis dans la rue parce que on n'en pouvait plus du prix de l'essence, c'était la goutte de carburant qui a fait déborder le vase. Et ben, ce sont des risques qui continuent à prendre. Donc oui, on regarde la lune, on regarde le doigt, comme disait Éric Revel, on parle beaucoup de la crise sanitaire et les questions de pouvoir d'achat, on en parle aussi avec beaucoup de détails.
Béranger. Un problème en fait de ligne. Mais non, mais en tout cas, c'est vrai. On a compris le sens de votre intervention, bien sûr. C'est-à-dire
c'est
qu'on
un vrai
a
problème
tout...
quand on vit en ruralité.
Bah, oui, même un peu partout quand on passe, évidemment dans les stations essence et quand on voit ces prix qui flambent et pas beaucoup d'autres solutions alternatives, hein, puisque le transport en commun c'est bien quand on est en ville, mais il y a même des endroits où c'est un petit peu plus compliqué. Allez, on va poursuivre dans un instant. On a pris un petit peu de retard et on va revenir aussi sur il y a la question du carburant et ce qui fait beaucoup causer aussi ce matin bien sûr dans l'actualité c'est cette histoire scandale. En fait dans les maisons de retraite on aura le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées Pascal Chanvert qui sera avec nous dans une minute.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h19 et on revient sur ce scandale, sur ce livre hein, scandaleux, Victor Castanet, sur ce livre Fossoyeur sur le Orpea. Vous avez été confronté, vous, à des défaillances dans les maisons de retraite. Vous voulez nous en parler, 0826 300 300, et c'est notre question du jour. Est-ce que, oui ou non, vous avez été confronté, vous dites oui à 81%, comme Bob Épine qui nous dit, une personne chargé de faire manger 15 personnes, plateau repas retiré après la pause méridienne, que le résident ait terminé ou pas pour cause de vaisselle. La plupart ne savent même pas manger tout seul. Et continuez de nous appeler. En attendant, pour en parler et témoigner,
Pascal Chanvert est avec nous. Et président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour Pascal Chanvert.
Bonjour.
Comme le disait un auditeur hein, qui était avec nous tout à l'heure, juste avant 9h, il disait, il connaissait bien les maisons de retraite, il disait, bon, il y a ces mauvaises maisons de retraite, et puis heureusement, à côté de ça, il y en a d'autres qui font le travail. Sur Orpea, là, vous étiez informé d'actes comme ça, de défaillance, hein, on ne va pas parler de malveillance, même s'il y a de la malveillance, de la maltraitance.
Si vous voulez, il y a bien entendu des maisons de retraite qui font le meilleur travail qu'elles le peuvent avec des professionnels du directeur au plus modeste des salariés extrêmement engagés. Il y a des services à domicile qui font le meilleur travail qu'ils le peuvent avec des professionnels extrêmement engagés. Ça, c'est clair. Mais le problème majeur en France, c'est qu'aucune maison de retraite, aucun service à domicile n'a les moyens de fonctionner correctement. Et c'est pourquoi 80% de vos auditeurs sont mécontents des maisons de retraite ou des services à domicile. Et c'est ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est que l'ensemble du pays s'est au fond habitué au fait que quand il s'agit des personnes âgées, il n'y a pas les moyens de faire ce qu'il faut. Et ça n'est absolument pas déterminé à l'avance. C'est juste parce que nos hommes et nos femmes politiques ne consacrent pas suffisamment de temps à se pencher sur ces questions et que donc depuis 15 ans, ils promettent tous des réformes qu'ils ne mettent pas en place. Et nous avons décidé, nous, en tant que directeur, de saisir l'occasion de cette campagne électorale, et évidemment, là, l'occasion de cette actualité, pour dire que ça ne peut plus durer, que nous ne l'accepterons plus en tant que directeur. Nous avons attendu pendant 5 ans la réforme de Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans celle de François Hollande, pendant 4 ans et demi celle d'Emmanuel Macron. Il n'y a rien eu. Nous ne jouerons plus à ce jeu-là, nous dénonçons cela.
Oui, Pascal Chauvert, qu'est-ce qu'il faudrait alors évidemment, c'est tellement compliqué qu'on ne va pas faire ça en 5 minutes.
Non, mais c'est très simple. Ouais. Tous les rapports sont sur la table. Ouais. Qu'un politique aujourd'hui ne nous dise plus, il faut faire un rapport. Tous les rapports sont sur la table. Parce que, au moins, ce que Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont réussi à faire, et je ne fais pas d'ironie, ce sont d'excellentes études, d'excellentes réunions de travail, et les constats sont là. Le constat, il est simple. Il suffit de diminuer le chômage de 300 000 personnes, de recruter 300 000 personnes dans les établissements et les services à domicile, et tout ce que les auditeurs disent qu'on n'a pas le temps de faire, eh bien, évidemment, en augmentant le temps de professionnels, nous aurons le temps de le faire au service des aînés. Donc on voit bien que l'éthique, s'occuper des aînés, rejoint l'économique, diminue le chômage.
C'est vrai. Alors Pascal Chauvert, recrutement de 300 000 personnes pour pouvoir assurer ces services dans des établissements privés ou dans des établissements publics, et qui paye en fait derrière?
Aujourd'hui, dans des établissements privés pour 50%, 30% privé associatif, 20% privé commerciaux comme Orpea et 50% des établissements publics. Et dans le secteur du domicile, c'est à peu près les mêmes proportions, 20 à 25% de privé commercial, les autres publics ou associatifs. Qu'il y ait un débat autour de ce qu'Orpea a fait d'une partie de l'argent qu'il a reçu des résidents. Quand on nous dit si c'est vrai, il faudra le vérifier.
Oui, il y a une enquête.
Que le prix de journée pour les repas, c'était 5 euros par jour pour tous les repas, alors qu'on nous dit qu'il y avait des chambres à 12 000 euros, bien entendu qu'il y a là quelque chose de choquant auquel il faudra certainement remédier. Maintenant, moi je ne crois pas que s'adresser à une entreprise privée soit mauvais par définition.
Non,
quand on va chercher le pain chez le boulanger, quand on va chercher les vêtements ou quand on va à l'hôtel, on est dans des entreprises privées et elles peuvent être de qualité.
Bien sûr.
Mais le problème majeur, c'est ce manque de moyens. Une fois qu'on aura réglé la question des moyens, alors là, on verra que les meilleurs font encore mieux, et s'il y en a qui ne font pas mieux, à ce moment-là, il faudra les fermer.
Oui, et Pascal Chauvert, il y avait aussi une autre réflexion, on en terminera peut-être par cela, parce qu'il y a beaucoup d'appels d'auditeurs, mais qui était aussi d'essayer de demander à nous tous, citoyens, de préparer un petit peu, entre guillemets, notre retraite, et surtout ces derniers jours dans des maisons de retraite, en mettant un peu de l'argent de côté ou en investissant. Est-ce que ça marche aussi ?
Écoutez, pour le dire en 3 minutes, bien entendu que les Français, ils doivent penser à leur avenir, l'avenir de leurs parents ou de leurs grands-parents, mais leur propre avenir. Être vieux, c'est la question qui nous concerne tous si on ne veut pas mourir jeune. Donc, il faut tous que nous nous préparions au vieillissement, et il faut que nous prenions conscience que nous sommes dans une société agiste, c'est-à-dire qui fait de la discrimination par l'âge, qui discrimine les plus âgés en considérant que leurs besoins ne sont pas très important, et qui dévalorise le vieux en nous, c'est-à-dire le temps qui passe en nous, c'est-à-dire notre propre vieillissement. Nous dévalorisons notre vieillissement. Et donc, du coup, nous n'allons pas bien parce que nous nous disons un jour, j'aurai 60, 70, 80 ou 90 ans, et ce jour-là sera terrible. Tant qu'on se raconte ça, eh bien, on n'a pas de possibilité d'être heureux en se projetant dans l'avenir. Au contraire, il faut se dire qu'on peut être vieux et être mieux. Et c'est clair.
Ouais. Merci Pascal Chauvert. 0826 300 300.
Avec Chantal, appelle de Chaumontel. Bonjour Chantal.
Chaumontel, c'est où ça?
C'est dans le 95, dans le Val d'Oise.
Dans le Val d'Oise. Bonjour Chantal.
Bonjour à tous et merci de me prendre en ligne. Ouais. Voilà, je voulais témoigner. Ma maman a été en maison de retraite durant environ 4 ans. Ouais. Et maintenant, elle est décédée. Elle avait une maladie neurodégénérative dans un groupe corian. Et je voulais d'abord dire, donc je vais commencer par le positif, que le personnel était formidable, mais bien sûr pas assez nombreux. Il y avait une infirmière qui était là le jour, mais personne de nuit. Donc, du coup, lorsqu'il y avait un problème la nuit, pas d'infirmière, c'était compliqué pour les résidents. Et ce que je voulais souligner, c'est que le prix à l'entrée de cette maison de retraite, c'est-à-dire il y a 4 ans, était de 3200 euros par mois.
Ouais.
Lorsqu'elle est décédée, c'était 3700 euros par mois, ce qui est quand même énorme.
Bah, ouais.
Et le prix qui était alloué au forfait alimentaire par jour était de 4,56 euros précisément. Donc je voulais dire que quand même, l'argent qui est donné par les particuliers est énorme, d'autant que le personnel qui est présent, le personnel soignant, est payé par, je crois, la DAS, la Sécurité sociale. Mmh. Donc, si on paye ces prix-là, c'est pour que les actionnaires aient énormément d'argent. Je crois que l'action chez Korian est à 10% ou quelque chose comme ça.
Ouais,
donc, qu'on arrête de dire qu'il faut que l'État mette un peu plus d'argent. L'État en met même dans les établissements privés et le résultat n'y est pas. Donc, heureusement que le personnel est formidable, mais malgré tout, si le personnel est formidable, ils sont tellement peu nombreux que c'est très difficile, ils ne peuvent pas répondre à la demande des gens. Et je voulais dire aussi une dernière chose, on nous a fait vivre quelque chose d'horrible pour le Covid.
Ouais.
Jamais je n'aurais souhaité vivre ça, ni ma mère. Elle était déjà, elle parlait mal, mais elle parlait. J'y allais tous les jours. Lorsque je n'ai pu y aller, j'ai pu la voir. J'étais assise à une table à 1m50 d'elle, et elle ne me parlait plus que par des grognements. Je ne voudrais plus du tout que ça arrive. Je ne comprends même pas que ça puisse arriver.
Ouais.
Et quand je pense que Brigitte Macron a donné des tablettes gratuites dans de certaines maisons de retraite, c'est vraiment mal connaître les résidents, parce que ma mère ne savait même pas parler au téléphone ni sur une tablette.
Ouais.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup de votre témoignage.
C'est émouvant, et bien sûr, parce qu'à chaque fois, il y a des situations particulières, extrêmement difficiles. Tout le monde est confronté en fait à ça. Ça suscite beaucoup d'appels. On va en prendre un dernier appel qui est avec nous au 0826-300-300.
Hein. Joël qui nous appelle d'Agen. Bonjour Joël, bienvenue.
Bonjour Joël.
Oui, bonjour. Moi, je vous appelle du Lot-et-Garonne.
Ouais.
Donc, j'ai eu mes deux parents en maison de retraite. Mon papa, il y a quelques années, il était dans une maison de retraite où c'était tout à fait correct. Et après, ma maman a voulu, quand ça a été le tour de ma maman, elle est partie dans cette maison de retraite. Ça a été épouvantable. C'était pas Orpea, c'était un autre groupe.
Ouais.
Et à ce moment-là, la nourriture avait été changée. Il n'y avait plus de cuisiniers sur place. Donc, c'était de la nourriture qui était faite plusieurs jours avant, avec des procédés qui étaient de conservation. On allait manger le dimanche avec elle. Elle avait de l'agneau qui était cuit depuis 8 jours et qui était réchauffé. Moi, j'allais la faire manger tous les soirs. Elle me disait qu'elle ne pouvait plus manger de bananes. Elle n'avait que des bananes pour manger. Et il y avait des soupes qui n'était pas faite sur place et qui était payée par la sécurité sociale, qui était achetée en pharmacie. Voilà.
Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que vous en avez parlé avec l'organisation,
la direction de l'établissement?
Alors absolument. Je vais vous dire, j'avais promis à ma maman, comme elle s'était occupée de nous petits, je lui avais promis que je m'occuperais d'elle. Je l'ai changée 4 fois de maison de retraite. Et à chaque fois, j'ai écrit. Je l'ai amenée dans une famille d'accueil, ça a été horrible. Et finalement, elle a fini à Agen chez Orpea, et ça je vous le signalais.
Ouais.
Là, on s'est très bien occupé d'elle.
Ouais.
Alors il y avait une cadre de santé qui était formidable, il y avait une responsable, une directrice qui était formidable, et il y avait de la cuisine qui était faite sur place.
Ouais.
Sauf que le manque de personnel était épouvantable. J'allais faire manger ma maman tous les soirs. Et moi, j'allais la coucher pour que le personnel n'ait pas à le faire. Le dimanche, j'avais demandé l'autorisation d'aller la doucher parce qu'il manquait systématiquement de personnel. Et il nous est arrivé, quand il y avait une absence, c'est nous qui descendions les résidents dans la salle de restaurant pour les faire manger parce qu'il n'y avait pas de personnel. Et à côté de ça, la sécurité sociale paye des fauteuils. Quand il y a un fauteuil qui est utilisé, on remplace les fauteuils. Chaque fois, il y a des choses qui sont neuves. Certains médecins, quand elle est rentrée dans une maison de retraite, retraite, il a fallu que je m'oppose à ce qu'on lui fasse un électrocardiogramme parce qu'on faisait venir un médecin pour faire ça. Ouais. Tous les examens possibles, et il y a beaucoup de personnes qui s'enrichissent derrière ça. Bon. C'est complètement anormal. Ouais.
Non, voilà. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui est en pleine expansion. Parfois, il y a besoin sans doute davantage en fait, de contrôle. Et il ne faut pas jeter l'opprobre sur toutes les maisons de retraite, loin groupe, de là, et y compris sur un groupe d'ailleurs, puisque vous l'avez dit vous-même, Chantal, c'est-à-dire que finalement, celui qui est accusé aujourd'hui, ça, c'était plutôt pas mal, sauf que bon, ça manquait un peu de personnel. Bon,
alors, merci. Voilà, ça manque de personnel et le personnel est mal payé.
C'est vrai que c'est un cercle sans fin, parce que s'il est mal payé, ça veut dire qu'il va falloir augmenter en fait aussi le prix des chambres, etc.
Vous payez combien par mois, Joël?
À ce moment-là, c'était dans les 2000 euros. Je vous parle de ça. Ma maman est décédée il y a 5 ans. Ouais. Mais c'est, par contre, ce que je veux bien signaler, c'est que derrière, il y a des professionnels qui s'enrichissent, des pharmacies, des médecins, qui font tous des examens dont il n'y a pas besoin. On fait des tas de choses, on fait payer la sécurité sociale pour des choses dont il n'y a pas besoin.
Alors, c'est pas faux, mais de temps en temps aussi, c'est demandé par parfois les familles, etc. Quoi. Donc,
non, là, je ne suis pas d'accord avec vous.
Ça dépend des endroits.
Je vais quand même vous expliquer une petite chose.
Oui,
ma maman,
allez-y.
Quand elle a été en famille d'accueil, on est arrivé dans une famille d'accueil où la dame, elle a demandé un matelas anti-escar, elle a demandé tout ce qu'il fallait. Et moi, je n'en revenais pas. Ma maman n'avait besoin de rien de tout ça.
Ouais.
Et là, je m'en suis rendu compte quand je l'ai sortie de là, parce que je suis allée à la pharmacie, j'avais demandé à ce qu'elle n'ait pas un fauteuil, vous savez, pour aller aux toilettes, là, je sais pas, Donc j'ai fourni ce fauteuil, voilà. Or, quand je suis allée après, j'ai reçu des notes de des remboursements de la sécurité sociale, des feuilles, je les ai regardées un petit peu, et là je me suis rendu compte qu'on avait à la pharmacie demandé un fauteuil alors que moi je l'avais fourni. Donc je suis allée à la pharmacie et je leur ai dit, je veux savoir où est ce fauteuil. Ce fauteuil, on me l'a rendu. Et donc, j'ai dit, ma maman était partie, et là, la pharmacie, on m'a dit, mais vous avez récupéré tout le matériel qui a été pris pour votre maman. Et quand je suis arrivée à la famille d'accueil, j'ai dit, je viens chercher le matériel, ils avaient été prévenus par la pharmacie, et le matériel, j'ai tout récupéré, dont un matelas anti-escar. Quand ma maman a été, j'ai entendu l'actrice qui a eu des problèmes d'escar.
Bon, on voit,
je veux vous dire, ce matelas anti-escar que j'ai récupéré, d'accord, c'était un matelas haut de gamme que j'ai donné à la maison de retraite Orpea parce qu'il n'arrivait pas à avoir ce type de matelas. Et je l'ai donné. Et ma maman a eu des escarres avec ce matelas, elle a été soignée.
Voilà. Bon, il y a des dysfonctionnements. Merci de votre témoignage, tous vos témoignages. Dans un instant, allez, nous allons revenir à notre dernier sujet autour de l'abstention. Est-ce qu'il y en aura beaucoup et pourquoi? Dans un instant, la vérité en face.
À tout de suite.